Merci d'avoir choisi France Bleu Paris une nouvelle fois ce matin pour démarrer votre journée. Le journal de 8h en ce 22 mai, Adrien Bossard, et les images restent encore en mémoire.
Celle de l'agression d'une femme transgenre à Paris, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux en mars. Aujourd'hui, son agresseur présumé est au tribunal. Le quartier de la Tour Eiffel, complètement différent dans 10 ans, la mairie de Paris veut en faire un vaste espace piéton en diminuant l'impact des voitures. Journée internationale de la biodiversité, aujourd'hui, entre tous les rapports alarmants sur le déclin de la faune et de la flore, une lueur d'espoir, le retour de plusieurs espèces en Île-de-France, poissons ou castors notamment. À quoi sert l'Europe? À 4 jours du vote, France Bleu Paris vous aide à y voir plus clair avec l'exemple des subventions accordées aux entreprises, notamment franciliennes. Et dans le prochain quart d'heure, Romain, on fait la route ensemble.
Oui, ça bouchonne sur le périphérique, également des ralentissements sur l'A86 et l'A4 ce matin. Point complet sur vos conditions de circulation. Dans moins de 10 minutes, point complet aussi sur votre météo. C'est pas si mal pour ce mercredi.
France Bleu Paris matin.
Souvenez-vous, le 31 mars dernier, lors d'une manifestation contre l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika à Paris, Julia, jeune femme transgenre, sort du métro, place de la République, quand elle est prise à partie par un jeune homme. Ça commence par des insultes, des bousculades et ça finit par des coups. Aujourd'hui, près de 2 mois après les faits, son agresseur présumé se retrouve devant le tribunal pour violence commise en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, Sylvie Charbonnier.
Oui, on se souvient des images. La vidéo avait tourné en boucle sur les réseaux sociaux. On voyait la jeune femme prise à partie, insultée, empêchée d'aller prendre son métro, frappée au visage donc par un jeune homme qui a reconnu les faits et qui a été placé en détention provisoire depuis. Ils vont donc se retrouver face à face aujourd'hui devant le tribunal. Un procès que Julia voudrait exemplaire. Également sur le banc des parties civiles, l'association Mousse et Stop Homophobie qui ne souhaitent pas demander de peine de prison pour ce jeune, mais plutôt un stage dans une association LGBT afin, d'après eux, de le sensibiliser aux agressions subies quotidiennement par les homosexuels et les trans. Un procès symbole, donc, pour une prise de conscience. L'an dernier avait été considéré comme une année noire. D'après l'association SOS Homophobie, le nombre d'agressions physiques contre des trans avait augmenté de 66% dans le pays, avec 231 actes violents recensés.
De ce procès, l'avocat de Julia veut en faire un exemple. Il espère une condamnation. Le jeune prévenu de 23 ans encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Lui aussi risque 45 000 euros d'amende et la prison. Un gilet jaune de Mulhouse est jugé au tribunal correctionnel de Paris pour avoir insulté le philosophe Alain Finkielkraut, traité de sioniste, de sale race lors d'une manifestation le 16 février dernier. Des injures antisémites filmées puis relayées sur les réseaux sociaux.
Et si vous aimez vous balader, flâner dans Paris, vous pourrez bientôt vous promener à pied du Trocadéro jusqu'à l'école militaire.
Sans patienter au passage clouté qu'une voiture vous laisse passer. D'ici 4 ans, un vaste espace piéton de 52 hectares sera aménagé. Une longue promenade qui va changer le visage du quartier avec plus d'espace vert aussi. La carte postale ne sera donc plus la même. Une paysagiste américaine vient d'être désignée par la municipalité pour mener à bien ce projet pour créer en quelque sorte un parc en plein Paris, explique Jean-Louis Missica, adjoint à la mairie.
Ce site, il a ce site particulier que la Tour Eiffel était un monument connu du monde entier et qu'on avait fini par oublier qu'au pied de la Tour Eiffel, il y avait toute une série d'incivilités, de dysfonctionnements, de choses qui n'allaient pas. Et ce que fait ce travail de cette remarquable paysagiste, c'est de nous restituer en quelque sorte la beauté du site, pas seulement en hauteur avec la Tour Eiffel, mais également au ras du sol, au ras de l'eau, au ras de la Seine et avec tout ce que ces jardins peuvent apporter. C'est un véritable nouveau parc. C'est 54 hectares et c'est un nouveau parc qui est créé en plein cœur de Paris.
Et début des travaux prévus fin 2020 pour la partie entre le Trocadéro et la Tour Eiffel jusqu'en 2023. La deuxième phase, elle, jusqu'à l'école militaire, débutera après les Jeux Olympiques 2024 et pourrait s'échelonner jusqu'en 2030. Plus d'espace vert donc en plein cœur de Paris pour contribuer à la sauvegarde de la biodiversité. Une biodiversité aujourd'hui en déclin. Il y a matière à s'inquiéter pour nos forêts, nos animaux, nos insectes, chez nous comme ailleurs dans le monde. Des milliers d'espèces sont menacées de disparition. Mais on en parle peu. Il y a aussi toutes celles qui reviennent dans la région, à commencer par les poissons dans la Seine. Il y en a aujourd'hui 36 espèces différentes, 2 fois plus qu'il y a 30 ans, Mélodie Pépin.
Anguilles, carpes, miroirs, épinochettes, gardons, voilà quelques-uns des poissons que vous pouvez pêcher dans la Seine aujourd'hui, signe que la qualité de l'eau s'est nettement améliorée. Même le roi des rivières est de retour.
Cette brochette, l'amélioration de la qualité de la Seine a permis le développement d'herbiers qui a permis de nouveau la fraie du brochet. Du coup, le brochet est revenu de manière plutôt abondante.
Damien Bouchon est chargé de mission pour la pêche et la protection du milieu aquatique dans l'ouest parisien. Il aimerait bien voir aussi revenir le saumon, espèce historique, mais ce sera plus compliqué.
Il reste tout le cloisonnement par nos barrages et nos écluses qui malheureusement sont pour la plupart des murs infranchissables pour l'espèce.
Et même si l'eau est moins polluée, on rappelle qu'il est interdit de manger des poissons pêchés à Paris et en petite couronne. Dans la série des revenants dans la région, il y a aussi le castor, disparu d'Europe depuis un siècle. Il est réapparu dans l'Essonne, explique Paul Hurel, animateur du réseau national Castor.
Ça traduit à la fois ce retour naturel de l'espèce, mais aussi que l'habitat a su être préservé quand même dans cette vallée de l'Essonne en question, où on a encore des boisements alluviaux qui permettent au castor d'y trouver le gîte et le couvert.
Reste à savoir quel impact aura le retour du castor sur l'écosystème quand il aura colonisé le secteur.
Le retour du castor et du brochet dans la Seine, on en parle avec notre invité à 8h15 dans 10 minutes, Grégoire Loïs, membre de l'Agence régionale de la biodiversité à l'occasion du début de la fête de la nature.
Oui, venez nous parler vous aussi de ce que vous faites justement au quotidien pour les animaux. Peut-être que vous avez installé des hôtels à insectes dans le jardin, vous donnez à manger aux oiseaux, vous avez installé des ruches. Est-ce que vous avez des espèces que vous ne voyez plus alors que vous les voyiez quand vous étiez enfant, 01 42 30 10 10.
C'est la grande interrogation du scrutin dimanche. Au-delà du résultat, quelle sera la participation aux élections européennes? Depuis 20 ans, elle est sous la barre des 50%, ce qui s'explique peut-être par une méconnaissance du rôle des institutions. Certains croient que l'Europe n'a aucune influence sur leur vie, que tout ça c'est finalement très loin. Et pourtant, à Bruxelles se décident des choses qui peuvent changer le quotidien des Français, notamment des patrons d'entreprises. Valotech, société de technologie médicale à Villejuif, vient de recevoir par exemple une grosse subvention de l'Europe. Pour son président, Valentin Dunat, c'est une manne tombée du ciel.
Et la première question que je pose à Jean-Christophe Lourme est simple. Est-ce que votre entreprise existerait sans les subventions européennes?
Elle existerait, oui, mais on n'aurait certainement pas eu le développement et la croissance qu'on a eu si on n'avait pas eu ce soutien de l'Europe.
Il y a quelques mois, il y avait 12 salariés. Ils sont 30 désormais et l'entreprise va encore recruter, notamment parce que l'Europe finance le dernier projet de Valotech à hauteur de 400 000 euros. Ce sont des capteurs de glycémie à placer dans la peau d'un patient diabétique. Concrètement, voilà comment ça se passe pour obtenir le financement.
Donc les dossiers se font, suivant les cas, par exemple entre 30 et 70 pages. Et la compétition est tellement forte que si on répond mal à une question, on n'a quasiment aucune chance de gagner. Il y a en gros moins d'un projet sur 20 qui était sélectionné.
Évidemment, la concurrence est rude au niveau européen. Elle l'est encore plus au niveau mondial.
Moi, j'estime que c'est une mission de l'Europe. On ne peut pas être plus bête que les autres et avoir la Chine, par exemple, ou les États-Unis qui financent ce type de projet et nous ne pas faire cet effort-là, qui est coûteux, c'est sûr, mais qui permet de développer des entreprises et des technologies et des solutions qui sont européennes.
Depuis la création de cette entreprise, 5 projets ont été financés par l'Europe. Dans la recherche médicale, l'Europe peut aider à hauteur de 50, 70 ou même 100%.
Valentin Dunat pour France Bleu Paris. Il n'y aura toujours qu'un club parisien l'an prochain en Ligue 1 de football. Le dernier espoir évanoui pour le Paris FC, battu hier soir en pré-barrage à Charletti au tir au but par le Racing Club de Lens. Et dans quelques minutes, on va venir sur l'actualité du PSG où il y a tout à reconstruire, nous dira Stéphane Bitton dans Ici, c'est France Bleu Paris.